L'âme des Descartes, c'est bien sûr Paul Desjardins, le grand-père d'Edith Orgon. Mais c'est aussi, selon les périodes, Ramon Fernandez, Jean Schlumberger, Charles Dubos, des écrivains et des critiques presque tous liés à la Nouvelle Revue française de Jacques Copeau, de Jacques Rivière, d'André Gide. Il a été effectivement question, dès les débuts de la NRF, vous vous rappelez les commémorations du centenaire de la NRF en 2009, donc en 1909, premier numéro de la NRF, d'emblée, il a été question, avant même que Pontigny soit fondé, de faire une sorte de partenariat, comme on dirait maintenant, entre la Nouvelle Revue française et Pontigny. En effet, cette NRF, sous l'éminence grise d'André Gide et avec Jacques Copeau, André Ruyters et Jean Schlumberger, etc., connaissait Paul Desjardins, était au courant de son projet, et de leur côté, ils avaient une sorte de visée utopiste sur leur revue. Il ne s'agissait pas uniquement de faire une revue, il s'agissait aussi d'avoir un théâtre, le Vieux Colombier, et ça sera chose faite à partir de 1913. Bien sûr, une maison d'édition en 1911, les éditions de la NRF qui vont devenir les éditions Gallimard, et de 1910 à 1912, alors sur une période assez courte, et on va comprendre pourquoi, les membres de la Nouvelle Revue française se sont attachés à organiser des décades littéraires à l'instigation de Paul Desjardins, qui s'est rapproché d'eux, c'est lui qui s'est rapproché d'eux, et c'est eux qui ont accepté de venir à Pontigny et à s'occuper des décades littéraires. Voilà, ça a duré pendant 2 ans, et ça a été l'idylle pendant 2 ans, et après ça a commencé à se détériorer, et après la guerre, au moment où les décades reprennent, la coopération entre la Nouvelle Revue française et les décades de Pontigny a été nettement moins soutenue, Pontigny devenant une sorte de lieu de villégiature agréable, plutôt qu'un pôle de réflexion pour les gens de la NRF. Alors, contrairement à beaucoup d'autres événements qui sont passés à Pontigny, sur les décades littéraires, on a des archives. Vous savez que les archives de Pontigny ont été confisquées par une section de la Gestapo assez précise, pour diverses raisons. Donc, on n'a pas d'archives de Pontigny, mais eux-mêmes n'en produisaient pas, c'est-à-dire que les communications n'étaient pas écrites, n'étaient pas dactylographiées, n'étaient bien sûr pas enregistrées, n'étaient pas retranscrites d'une manière ou d'une autre, et cela relevait de la volonté même de Paul Desjardins, qui voulait qu'il y ait une libre conversation entre personnes qui avaient certes préparé et réfléchi au sujet, mais qui ne se mettaient pas dans la pose de l'écrivain. Et en cela, c'est une position extrêmement novatrice et qui reste et qui demeure et qui devient peut-être de plus en plus novatrice avec le temps. Donc sur ces décades littéraires, on a énormément d'archives parce que les gens se sont écrits entre eux. Vous savez que tout le groupe de la NRF était des épistoliers hors de pair et qu'ils ont aussi tenu leurs journaux intimes dans lesquels on trouve beaucoup d'informations et au premier titre d'entre eux, le journal de Maria van Rysselberghe où on a toutes les décades, avant les décades, avant l'arrivée des décadistes, l'arrivée, les repas, enfin bon, on apprend beaucoup de choses. Mais on n'a toujours pas les textes qui ont été prononcés pendant les décades. Tous ces documents nous font comprendre qu'entre la NRF et Pontigny, les relations ne furent pas aussi généreuses et fertiles qu'elles auraient dû être. Pierre Masson, qui a publié récemment la correspondance entre Paul Desjardins, qu'il appelle Socrate, et André Gide Protée, et c'était des surnoms qui se donnaient aussi entre eux, a éclairé avec objectivité et finesse les relations souvent tortueuses entre l'éminence grise de la NRF et celle de Pontigny, chacun voulant, peu ou prou, se servir des réseaux de l'autre. Ces deux esprits, à la fois inventifs, atypiques et quelque peu manipulateurs, ne furent pas toujours attelés ensemble. Ils jouèrent même souvent à un jeu contraire, l'hédonisme de Gide, la haute conscience de Desjardins, mais il y eut des décades d'entente inespérées, et une sorte de discret respect mutuel, chacun comprenant l'importance et l'influence de l'autre, et qu'il ne fallait pas aller sur ses plates-bandes. Enfin, Pascal Mercier, malheureusement décédé depuis, a permis de revenir sur les multiples projets, parfois utopiques, parfois tout à fait réalisables et réalisés, que Paul Desjardins n'a cessé d'avoir tout au long de sa vie, au-delà des décades, qui étaient déjà quelque chose de très important à organiser. Alors, pour mémoire, il a eu l'idée d'une école de commune culture en 1912. Il a fait fonctionner la petite université de la rue Visconti à partir de 1926. Et son dernier grand projet, l'Anti-Babel, en 1937, 4 ans avant sa mort. Il était plein d'idées, Paul Desjardins, mais il était sans fortune et il dépendait terriblement du mécénat de ses amis. Ce militant culturel et social, c'est une expression de Berdiaïev, put décevoir Charles Gide, s'attirer l'ironie d'André Gide et les critiques du fidèle Jean Schlumberger, mais son entreprise, aussi utopique et imparfaite fut-elle, dure jusqu'à aujourd'hui à travers Cerisy, ce qui forme en soi un extraordinaire démenti à toutes les critiques et tous les reproches qu'on lui a faits. Bon, après l'étude des projets humanistes de Paul Desjardins qui se sont heurtés à l'esthétisme des membres de la NRF et au réalisme de ses amis protestants, nous avons, sous l'impulsion d'Armand Atuel et François Chaubet, défriché une terre beaucoup plus vierge concernant les rapports de Paul Desjardins avec les grands patrons, avec l'entreprise, avec l'État et avec le peuple via les universités populaires. Michel Cointepas est intervenu pour redessiner la forte personnalité d'Arthur Fontaine, grand réformateur de la protection des ouvriers et qui influença considérablement Paul Desjardins dont il était l'ami proche. Fontaine est à l'origine des décades politiques et sociales qui ont fait Florès à Pontigny dans les années 20. Malheureusement, Fontaine est mort très rapidement. Annie Cohaillon a évoqué la figure controversée et quelque peu problématique d'un habitué des décades à partir de 1934. Je parle de l'ingénieur Jean Coutreau, pionnier de l'organisation scientifique du travail et de la psychosociologie de groupe. Malheureusement, c'est à partir de ces mêmes années, dont vous savez que c'est une période de crise politique sociale majeure, que cet esprit brillant s'est mué en une sorte de prophète mégalomane, lié peut-être à la synarchie qui mourut mystérieusement en 1941. Et sa forme de folie a bien sûr invalidé tous ses apports aux décades sociales des années 30. Toujours est-il que pendant les années 30, Jean Coutreau a joué un rôle très important à Pontigny. Christophe Prema a relié l'expérience pontignacienne à celle des universités populaires, dont Paul Desjardins fut l'un des piliers au tournant de l'affaire Dreyfus et du XXe siècle. Mais au lendemain de la Grande Guerre, ce type de partage de la connaissance qui veut échapper aux idéologies de l'époque, soit marxisme, soit capitalisme, doit s'appuyer sur un réseau de lieux intellectuels européens. Et Pontigny, en rebrassant, recyclant chaque été grand nombre des professeurs, des universitaires, des acteurs des universités populaires, a été l'un des chaînons importants du redémarrage des universités populaires après la Grande Guerre. Armand Atuel a retracé la manière dont Paul Desjardins s'est intéressé au courant rationalisateur, à ces entreprises novatrices qui révolutionnèrent la vie sociale et l'organisation du travail, en particulier à travers les relations de Paul Desjardins avec un personnage curieux qui s'appelle Auguste Deteuf, qui est connu des lettrés pour avoir publié une sorte de best-seller à travers les siècles qui s'appelle « Les propos de Barenton Confiseur » et qui sont des réflexions morales, mais fondées sur la pratique et l'expérience, ce que c'est que le travail bien fait, le goût de l'artisanat. Enfin, c'est vraiment des... Pour avoir travaillé à la FNAC, je me rappelle que chaque fois qu'il y avait une nouvelle édition des propos de Barenton Confiseur, c'était un best-seller absolu. Les gens se précipitaient pour l'acheter. Je pense que ça marcherait encore maintenant. Donc cet Auguste Deteuf était d'abord un polytechnicien et le fondateur d'une revue qui s'appelait Les Nouveaux Cahiers, dans lequel il prenait le dialogue entre patronat et syndicats ouvriers. Et il est le fondateur d'Alstom en 1928. Armand Atuel attend donc du Cerisy contemporain qu'il retrouve les chemins d'une pensée critique et qu'il distingue dans la foule des intellectuels qui ont à voir avec Polytechnique, celui qui sera le Deteuf d'aujourd'hui. Enfin, François Chaubet, dont vous connaissez les travaux importants sur l'histoire des intellectuels, a redéfini le rôle et le statut de l'intellectuel républicain, auquel l'expérience de Pontigny a donné non seulement un cadre, mais aussi une morale, un pouvoir temporel et une spiritualité presque.